Qui vous dit
merci chérie, c'est trop.
Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Maxime, le directeur de l'hôtel Kyria de Marseille, qui vous a préparé ce programme aux petits oignons. Avec l'offre évasion, des deux nuits réservées, Kyriade vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriade.com.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, j'ai besoin d'un petit coup de main avec votre Switch.
Oui?
Bah, je suis toujours à la traîne derrière mon fils de 6 ans à Super Mario. Vous pouvez m'aider?
Persévérez, vous allez progresser. Et du 16 au 27 avril, pendant l'opération de super pouvoir d'achat chez Leclerc, la Nintendo Switch OLED avec le jeu Super Mario Bros. Wonder est à 354,65€. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Console vendue seule au prix de 310,49€ et jeu vendu seul au prix de 44,16€. Modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
RTL. RTL, il est 13h. L'essentiel de l'actualité avec vous, Gaël Giordana. Bonjour Gaël.
Bonjour à tous. Samantha, la mère de l'adolescent de 15 ans agressé à Grande-Synthe, témoigne sur RTL. Elle dénonce des menaces reçues juste après la mort de Philippe Kopmann, ce jeune homme battu à mort mardi dernier. Le fils de Samantha est le cousin de l'un des deux agresseurs présumés de Philippe Kopmann. Ce témoignage est à retrouver sur RTL.fr. Ces violences entre jeunes font la une de l'actualité depuis plusieurs semaines. Pour François Bayrou, le président du Modem, il y a une perte de repère. Il était l'invité du grand jury RTL M6 Paris Première, Le Figaro.
Tout y contribue, les écrans, l'école, ou en tout cas les difficultés de l'école, tout contribue à, si j'ose dire, à priver de parole ces enfants et ces adolescents, et ça débouche en violence, et une violence qui devient, je crois en raison des jeux vidéo, et je crois en raison des écrans, et je crois en raison de ce qu'on voit et découvre tous les jours, de ces scènes horribles filmées et répandues sur les réseaux sociaux. Et tout cela tourne dans une violence devant laquelle on est désarmé.
Prenez vos précautions sur la route en Ile-de-France en ce retour de vacances. Non seulement ça sera chargé, mais en plus l'autoroute A13 est toujours fermée dans le secteur de Saint-Cloud à cause d'importantes fissures sur la chaussée. En Australie, l'hommage à Sydney de centaines de personnes aux 6 victimes de l'attaque d'un centre commercial. C'était le 13 avril dernier. 5 femmes et un agent de sécurité avaient succombé au coup de couteau d'un assaillant. Depuis cette attaque, 2 Français sont vus comme des héros dans le pays. Ils ont réussi à faire fuir l'agresseur avec un poteau notamment. Silas et Damien témoignent sur RTL au micro de Christophe Mallet.
Bah, au tout début, c'était beaucoup d'Australiens qui nous ont énormément félicité. Des gens qui étaient dedans, des gens qui étaient aussi en dehors. Après, c'est vrai que maintenant, on a eu, quand les mots se sont tournés, il y a eu beaucoup de Français aussi qui nous ont sollicité. Des gens qui sont aussi partout un peu dans le monde. La résidence permanente, ça arrive aussi comme un soulagement. J'arrive toujours pas à le croire, depuis que je l'ai, que je suis maintenant, j'ai la permanente résidence. Et c'est ce que je voulais vraiment depuis longtemps et de l'avoir, c'est une chance énorme. Et c'est vrai que c'est un truc que je ne peux pas fêter par rapport à des familles qui aujourd'hui sont en deuil. C'est vrai que ça fait un sentiment bizarre en fait. Et d'un côté, je suis heureux, mais après, il y a toujours le fait de comment ça s'est passé et ça fait un sentiment un petit peu bizarre.
Damien, que vous venez d'entendre, a obtenu la nationalité australienne. Au Proche-Orient, l'armée israélienne continue de bombarder en ce dimanche la bande de Gaza. 2 Palestiniens ont été tués ce matin par des soldats israéliens en Cisjordanie. Tsahal affirme qu'ils avaient tenté d'attaquer des militaires. On va finir sur le foot, la Ligue 1. Les matchs aujourd'hui à 15h, Lille-Strasbourg, Reims-Montpellier, Le Havre-Metz. À 17h, Brest-Monaco. À 19h, Toulouse-Marseille. Et l'énorme choc à 21h, PSG-Lyon. RTL Foot, c'est à 20h avec Eric Silvestro. RTL, il est 13h03. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Mohamed Bouafsi et son Focus Dimanche.
RTL. Le Bon Dimanche Chaud.
Bonjour, je suis Bruno Guillon et tout à l'heure, dans Le Bon Dimanche Chaud, je vous ai sélectionné les meilleurs moments du Bon Dimanche Chaud. J'ai choisi moi-même, minute par minute, le nectar de l'émission. Alors régalez-vous, c'est pour moi et ça fait plaisir. À tout à l'heure.
Le Bon Dimanche Chaud, présenté par Bruno Guillon, c'est tout à l'heure à 14h sur RTL.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 1,29€.
L'artichaut
artichaut ?
Eh oui, patron. Dès demain, chez Lidl, il est à 1,29€.
1,29€ l'artichaut ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins 15%, soit 1,10€ l'artichaut. Oh, ils sont archi chauds.
Et toi, t'es archi...
archi mal, eh oui. Je sais, patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Docteur, c'est terrible. Je ne sais d'hésiter entre la qualité ou le prix ou la qualité. Je suis totalement perdu. Aidez-moi!
Écoutez, madame Latsou, je ne vois qu'un seul traitement. Akena.
Akena? Quel rapport?
Le rapport qualité-prix, madame Latsou, vous savez, chez Akena, il n'y a pas mieux que ce soit pour les vérandas, les carports ou les pergolas.
C'est bon, doc. Je suis guéri.
Akena, la reine des vérandas.
Et les pergolas.
Quand vous avez un brique glace, ça vous paraît compliqué à gérer? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end. Pendant une heure, on va revenir sur l'actualité de votre semaine avec les personnalités qui l'ont marqué. Après le MeToo armé, on assiste désormais au MeToo hôpital. La parole se libère chez les soignants qui révèlent les multiples agressions sexuelles et sexistes qu'ils ont vécues dans le milieu hospitalier. Vous allez découvrir le témoignage bouleversant de Marine, victime de harcèlement au quotidien au sein de son hôpital. Elle était la secrétaire générale adjointe de l'Élysée entre 1990 et 1995. Avec François Mitterrand, Anne Lauvergeon lui avait fait la promesse de raconter son François Mitterrand. Vous saurez tout des derniers secrets de l'un des plus grands dirigeants français. Cette semaine, on célébrait le J-100 avant les Jeux Olympiques. Comment une athlète se prépare à cet événement planétaire? Marie Patouillet nous révèle les coulisses de sa préparation. Et on sera aussi avec Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, qui accueille le village olympique. Vous avez toujours rêvé de connaître les secrets du château de Versailles, son responsable du protocole et l'invité de Focus Dimanche.
Focus Dimanche,
Mohamed Bouafsi.
Après le MeToo dans le cinéma, après le MeToo dans les médias, après le MeToo dans les armées, on assiste désormais au MeToo hôpital des femmes et des hommes qui prennent la parole. Une libération de la parole tout simplement pour évoquer ces années de souffrance, ces années de difficultés, ces années d'agression sexuelle et sexiste. Ce midi, on reçoit Marine Sylvestre. Bonjour Marine.
Bonjour.
Et on reçoit Jonathan Moisson, vous êtes le responsable du syndicat des internes français, responsable de la communication de l'ISNI. On va évoquer dans quelques secondes ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux. Bonjour Jonathan.
Bonjour Mohamed.
Je suis très heureux, vraiment très fier de vous donner la parole aujourd'hui sur RTL dans Focus Dimanche, parce que cette cause, elle est noble et ces femmes et ces hommes qui prennent la parole doivent être accompagnés dans leur combat pour mettre fin aux agressions sexuelles et sexistes dans nos hôpitaux français. Ces soignants qui se battent pour notre santé ont aujourd'hui besoin de nous. Marine Sylvestre, qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous en êtes arrivée à être victime d'agressions sexistes et sexuelles dans les hôpitaux français?
J'étais toute nouvelle interne un peu, c'était ma première année globalement, j'arrivais sur Paris et donc j'arrive dans un nouvel hôpital parce qu'on change régulièrement d'hôpitaux pour nos stages. Et au début, tout se passe bien. Je rencontre plusieurs collègues, dont deux collègues qui vont être amenés à avoir des propos et des actes déplacés envers moi dans le futur. Mais initialement, c'est une ambiance plutôt bon enfant. J'essaye d'être cordial, je dis bonjour à tout le monde, je souris comme habituellement. Et c'est quelque chose qui rentrera en jeu plus tard. Petit à petit, ces collègues que je croise tous les jours, on commence à développer un peu un lien de familiarité. À force de rencontrer les gens, on se dit bonjour, on se raconte notre week-end. Et au début, ça s'arrête là. Et petit à petit, je commence à voir comme un changement un petit peu dans les mots employés, dans les tons, dans les regards.
Ces regards qui deviennent insistants.
Plus insistants, avec des remarques qui seront de l'ordre du « Ah, c'est dommage, tu portes pas de robe aujourd'hui. Ah, mais au fait, t'es pas célibataire, toi ?» Et au début, je me dis « Bon, ça sort un peu de nulle part, mais admettons, je passe au-dessus, je suis occupée, je pense aux patients que je vois juste après. » Mais ça devient systématique et ça devient un peu lourd au point que quand j'en parle avec des collègues co-internes avec moi, plutôt filles, elles finissent par me dire « Ah bon, ben, on va venir un peu plus avec toi le matin, tu les croiseras un peu moins toutes seules, on sait jamais. » Et ça continue comme ça pendant un certain temps jusqu'à certains soirs où je suis de garde et je vais à un moment donné récupérer les clés de ma chambre de garde pour me reposer quelques minutes maintenant que ça s'est tranquillisé avec les patients. Et je tombe sur un de ses collègues qui commence à me dire « Ah mais tu prends la clé de la chambre, mais tu veux pas rester un petit peu avec moi dans le bureau ?» On discute un peu, il était 2h du matin, j'ai dit que je préfère aller me reposer. Et il commence à me dire mais attends, on sait comment vous êtes vous les internes, hein, de toute façon, ça se voit, t'as un air un petit peu quand même libertin, je sais que tu préfères discuter la nuit. Je suis un petit peu choquée sur le moment, j'ai eu une journée qui était longue, je percute pas nécessairement ce que ça peut impliquer comme remarque. Je prétexte de devoir réévaluer urgemment une patiente pour sortir du bureau, la porte était derrière moi. J'ai pas récupéré la clé de la chambre de garde cette nuit-là. J'ai préféré rester me reposer dans une chambre de patient vide, dans les étages plus loin. J'en ai parlé le lendemain à mes collègues qui m'ont dit « Ah oui, il faut quand même qu'on fasse attention, c'est un peu bizarre. » Mais ça s'est arrêté là, jusqu'à ce que quelques semaines plus tard, j'étais dans cette fameuse chambre de garde qui est un peu isolée des autres unités où je travaille.
Oui.
Et j'entends quelqu'un qui frappe à la porte. Ce qui est un peu étrange, normalement quand il y a un problème, on m'appelle sur le téléphone du service.
Bien sûr.
Et on frappe à la porte et au début je me dis bon, j'attends de voir, peut-être que j'ai rêvé, c'était quelque chose. Je vois que la poignée de la porte s'entrouvre, j'avais fermé la clé de l'intérieur, donc la porte ne s'ouvre pas, je réentends quelqu'un qui frappe à la porte et après plus rien. Et c'est le lendemain, en sortant de garde le matin, j'ai un de ses deux collègues qui a fait la remarque en disant... Ah mais t'as été te coucher cette nuit parce que je t'ai pas vu passer ou... Et j'ai arrêté de me sentir en sécurité à partir de ce moment-là.
On vous sent encore ému par...
Ça a été compliqué sur le moment. J'étais jeune, c'était ma première année d'internat. Et ce problème qui s'est rajouté au stress quotidien a été extrêmement lourd à gérer.
Et ça s'est aggravé, Marine Silvestre ?
Ça a été... Après, ça a été non-stop. Tous les jours, c'était des remarques comme « Ah, mais t'es sûr que tu veux pas que je te dépose à moto ? Je suis sûr que tu rendrais très bien les jambes écartées dessus. » Il n'y a jamais eu d'agression physique. Ouais. Mais c'était des remarques comme ça, quasiment quotidiennes.
Jonathan Moisson, vous êtes le responsable de la communication du syndicat des internes français de l'ISNI. Ce que vient de raconter Marine Silvestre, c'est un sentiment que beaucoup d'internes en France ressentent. De la misogynie au quotidien, c'est ce que vivent des dizaines de milliers de femmes, mais des hommes aussi.
Malheureusement, c'est compliqué d'avoir des chiffres précis vis-à-vis de ces violences sexistes et sexuelles. Mais clairement, ce sont des témoignages qu'on entend régulièrement et qui vont en effet du harcèlement sexuel avec parfois des cas de viol qui sont rapportés aussi. C'est vraiment une problématique qui est extrêmement systémique. C'est important de libérer la parole par rapport à ces problématiques.
Marine, Silvestre, vous étiez interne à l'époque, est-ce que vous pouvez nous dire l'hôpital où ça a eu lieu ?
C'était un hôpital du centre de Paris.
D'accord. Marine, Silvestre, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez porté plainte pour ces agressions sexistes répétées ?
Je n'ai pas porté plainte, on m'en a assez activement découragée.
Oui.
Quand j'ai essayé d'en parler avec des collègues un peu plus haut placés, des médecins seniors, le responsable de mon stage, j'ai eu beaucoup plus de haussements d'épaules, beaucoup plus de « non mais c'est rien, c'est de l'humour, arrête ».
C'est ça qui est le plus dur, Marine Silvestre, parce que on a l'impression que notre parole, notre voix n'est pas audible parce qu'il n'y a pas d'agression sexuelle, parce qu'il n'y a pas viol. Et donc on a l'impression que les agressions sexistes, misogynes, au quotidien, c'est pas grave en fait.
C'est un peu le sentiment qui m'a été renvoyé, ça s'est beaucoup inscrit dans cet humour carabin, ce système hospitalier qu'on connaît malheureusement. Et sur le coup, je l'ai assez mal vécu parce que j'en suis venue à me dire, en fait c'est moi le problème, j'ai pas ma place ici si je comprends pas cet humour-là. Et c'est ce qui m'a conduit à envisager pendant un temps d'arrêter complètement médecine.
Ouais. Et j'imagine que le plus dur quand on passe une journée comme ça à s'occuper de patients qui vivent des choses très graves et que le soir on est en situation d'insécurité, ça nous met dans un état de stress important qui peut entraîner des conséquences graves aussi sur les patients.
Tout à fait. J'arrivais de plus en plus tôt pour éviter de trop croiser ces collègues-là parce que ça me prenait aussi du temps, moi, de me sentir de nouveau en sécurité dans le bureau pour pouvoir me concentrer sur ma tâche. Mais typiquement, ces soirs de garde où ils se sont passés ces choses que je vous ai racontées, je sais que, heureusement, on m'a pas appelé la minute d'après pour me dire « telle patiente a un problème, il faut que tu viennes tout de suite ».
Il y aurait eu des conséquences ?
Il y aurait eu des conséquences. Certainement beaucoup plus de temps avant de réagir et à prendre les bonnes décisions, ça c'est certain, parce que je serais pas dans mon état normal.
Je vous trouve très courageuse, Marine Silvestre, voilà, de prendre la parole, parce que c'est pas simple de parler de ce qui nous est arrivé dans la vie, mais vous parlez aussi, j'imagine, pour entraîner cette libération de la parole, pour que d'autres femmes se sentent plus libérées,
oui.
Soulagées.
J'ai fait, entre guillemets, l'erreur, moi, de pas porter plainte et de pas aboutir ces démarches.
C'était une erreur.
Pour moi, c'était une erreur, mais je comprends aussi les personnes qui ne le font pas, parce que c'est effectivement très lourd à faire. On est, de fait, si ça a été comme moi, très mal accompagnée dans ce processus. Et c'est aussi ce qui fait que je me suis engagée à partir de là, moi, à mon échelle, sur Paris, pour les internes, pour essayer de faire en sorte que les choses changent et les accompagner comme je ne l'ai pas été.
Jonathan Moisan, je le répète, vous êtes le syndicat des internes à l'ISNI qui fait un travail assez incroyable depuis quelques semaines, quelques mois pour accompagner les internes. Jonathan Moisan, il y a une omerta qui règne, il y a une crainte de perdre son emploi, il y a un peu aussi une forme de solidarité chez certains chefs de service qui croient que la vie n'a pas changé, que le monde n'a pas changé, que la société n'a pas évolué.
Oui, bien sûr, il y a cette culture patriarcale qui malheureusement est un peu présente partout dans la société, mais je pense particulièrement en médecine, entre autres du fait d'un monde principalement masculin, très très paternaliste. Les dernières études qui ont été menées au sein de l'ISNI sur ces sujets, c'était en 2017, où on remarque qu'il y a 50% des agressions et des harcèlements rapportés qui sont faits par des supérieurs hiérarchiques. Et voilà, on note aussi qu'il y a seulement 6,6% des faits qui sont rapportés à une instance ou une autre, et quand ils se tournent vers différentes instances, n'ont pas forcément la réponse qu'ils attendaient, parce que c'est relativement compliqué de s'attaquer à un professeur universitaire ou quelqu'un qui rapporte beaucoup à l'hôpital, ouais. sur le plan financier, et c'est ça qui est terrible aussi.
J'ai vu un chiffre absolument effarant, 72% des médecins interrogés par jeunes médecins expliquent avoir assisté à des agressions sexistes et sexuelles à l'hôpital. 72%. Ce chiffre, Jonathan Moisan, il nous fait froid dans le dos.
Ce chiffre, il est monstrueux. Je pense que sans forcément aller dans les agressions, on a tous été témoins de propos déplacés, de harcèlement et de choses vraiment problématiques. Et donc oui, ça c'est la réalité du terrain qui a tendance à être minimisée beaucoup par les instances, par nous-mêmes aussi, parce que on est dans cette culture. Mais ce chiffre, bien que monstrueux, ne m'étonne pas du tout.
Marine Sylvestre, vous êtes à l'époque des faits, vous étiez interne. On vous a parlé aussi de ces femmes qui sont capables de subir des agressions sexuelles, même des viols, et qui préfèrent se taire pour protéger leur carrière, qui ont peur.
J'en connais personnellement quelques-unes, et via mon engagement syndical, j'en ai rencontré beaucoup d'autres.
Elles vous disent quoi, ces femmes ?
Elles me disent, voilà ce qui s'est passé, c'est factuel. Elles me décrivent les agressions, les actes, les paroles, la participation parfois des chefs, femmes comme hommes, oui. D'ailleurs, à ce système. Et finissent toujours par me dire, mais surtout n'en parle pas. C'est juste pour prévenir les éventuels prochains internes qui passeront dans ce terrain de stage, pour attirer votre vigilance, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait réagir plus tard, mais surtout pour moi, n'en parle pas. J'ai encore eu le cas la semaine dernière d'une interne qui faisait une spécialité où ils sont pas forcément nombreux en France et notamment à Paris. Et elle m'a bien dit, si tu en parles, ma carrière est finie. Parce qu'on saura que c'est moi, le monde est très petit. Si jamais ça doit sortir, attends s'il te plaît, au moins 6 mois que j'ai terminé.
Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que j'étais au téléphone avec une femme qui avait peur de témoigner, qui a refusé, il faut le dire. Vous avez le courage de témoigner aujourd'hui à visage découvert, Marine Sylvestre, avec votre nom, avec votre prénom. J'étais au téléphone il y a quelques jours pour convaincre une interne qui a refusé, je la comprends, qui a eu peur pour sa carrière, une interne en chirurgie orthopédique, qui m'a dit, en chirurgie orthopédique, tout le monde le sait, nos chefs de service, femmes et hommes, sont réputés, connus, pour être des harceleurs, pour être des agresseurs sexuels et sexistes. Mais c'est comme ça, on est en chirurgie orthopédique. Mais c'est incroyable d'entendre ça.
Oui, je suis assez d'accord. Malheureusement, il y a effectivement des spécialités de la médecine et de la chirurgie qui sont réputées. C'est des milieux qui sont historiquement plus masculins. Il y a quand même une vraie prépondérance dans ces milieux-là, dans les milieux de la chirurgie, de l'anesthésie. Il y a aussi des choses qui changent. Je sais qu'il y a des anesthésistes qui se sont joints aux plaintes de certaines internes sur Paris pour monter un comité qui s'appelle le Clachard, qui recueille les témoignages des personnes qui sont victimes de ça et qui essayent à leur échelle, leur petite échelle, de changer les choses. Mais ce sont des chefs qui sont plutôt jeunes, plutôt au fait de ces nouvelles problématiques. L'ancienne génération aura plutôt tendance à dire, sans doute, avec exception bien sûr, mais c'est comme ça, on a tout survécu, on l'a tous fait, tu vas gentiment te taire, sourire et continuer ce que tu as à faire.
Jonathan Moisan, vous le responsable du syndicat de l'ISNI des internes de France, vous l'avez évoqué en quelques secondes, je voudrais qu'on revienne là-dessus. On accepte ça de certains chefs de service parce qu'ils ramènent des patients, en clair, parce qu'ils sont capables de collecter beaucoup de patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette stratégie-là ou cette méthode-là ?
Comment dire ? Certains chefs de service sont très investis à la fois sur le plan de leur service, par leur réputation, leur rayonnement international ou leur travail de recherche. Et il faut voir que la recherche dans l'hôpital, c'est aussi ce qui rapporte de l'argent à l'hôpital. C'est des gens qui chapeautent énormément de de travaux et qui vraiment en un coup de téléphone peuvent détruire la carrière de quelqu'un. Donc ça c'est une grosse problématique qui du coup ferme complètement la voie à énormément de témoignages et de libération de parole. Là au niveau de l'ISNI, les choses sur lesquelles on travaille actuellement, d'abord on va lancer un grand appel à témoignages pour avoir une idée de l'ampleur du problème et surtout les freins qui empêchent les internes de témoigner et de se protéger finalement, pour dans un deuxième temps réfléchir à quel process mettre en place pour faire remonter ces problématiques et protéger les internes, que ce soit pas au détriment de leur carrière et de leur vie.
Marine Sylvestre, vous êtes toujours soignante ?
Je suis toujours interne en médecine. Et le fait d'essayer de m'engager pour d'autres est un moteur, c'est une des seules choses qui me tient encore dans cette carrière, effectivement.
Et est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce qu'il faut changer pour évoluer ?
Si on arrive à briser un peu ce plafond de verre, cette omerta, si on arrive à libérer cette parole pour de bon, parce qu'on a déjà eu des tas de tentatives, hein. On n'était pas écoutés, tout le monde mettait ça tout sous le tapis en se disant c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, on compense tous comme ça par cet humour, par ces actes. Et il est temps que les choses changent, et je pense que le grand courage et l'avantage d'avoir le professeur Lacombe qui se soit déclaré sur ce sujet, c'est qu'on a une personnalité médiatique, ouais. Une personnalité déjà placée dans sa
courageuse.
Carrière.
Elle a été courageuse.
Elle est toujours très courageuse, effectivement. Ouais.
La chef du service de l'hôpital Saint-Antoine,
oui.
Où les choses changent, où à Saint-Antoine, on a appris, on a compris aussi, et c'est à l'image de ces hôpitaux français où il n'y a pas assez de chefs de service femmes qui pourraient aussi faire évoluer les choses, parce que les femmes font plus vite évoluer les choses que les hommes, souvent.
En étant victime elle-même, je pense, de ces choses-là, elles savent à quel point c'est important de les faire évoluer. Je suis convaincue que, comme une autre collègue le disait, l'avenir de la médecine, ce sont les femmes, effectivement.
Ouais, et surtout, je voudrais que les auditrices et les auditeurs de Focus Dimanche, pour conclure, comprennent que c'est pas une situation éloignée, en fait. Vous l'avez dit, Marine Sylvestre, une femme, un homme qui subit des agressions sexistes et sexuelles à répétition, qui subit un climat de harcèlement, un climat d'insécurité, il peut entraîner des erreurs dramatiques. Et parfois, à l'hôpital, on tombe sur un neveu, une nièce, qui a besoin d'avoir un soignant en face de soi, qui est concentré et qui n'est pas en situation d'insécurité. Merci beaucoup, Marine Sylvestre, d'avoir témoigné sur RTL. C'était important de vous écouter aujourd'hui. Merci à vous, Jonathan Moisson. Vous êtes le responsable du syndicat des internes de l'ISNI. Merci, Jonathan. Faut continuer, faut se battre.
Merci à vous. On est là pour ça.
À bientôt sur RTL. À bientôt à vous deux.
Merci de votre accueil.
Anne Lauvergeon a fait une promesse il y a une trentaine d'années à un homme, à François Mitterrand, le président de la République. Anne Lauvergeon, qui était à l'époque secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, lui a raconté et lui a dit « Un jour, je dirai tout de notre aventure commune entre novembre 1990 et 1995 où elle était cette secrétaire générale adjointe en charge de quasiment tout. » Anne Lauvergeon est mon invitée dans quelques secondes sur RTL pour raconter ce François Mitterrand différent, le François Mitterrand que personne ne connaissait. Vous le connaîtrez dans quelques instants sur RTL. Les derniers secret du président de la gauche, du président François Mitterrand.
Focus dimanche sur RTL. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Le dimanche soir, à partir de 23h sur RTL, l'antenne vous appartient. Rencontres, sexualité, manque de communication et conflits au sein du couple. Je suis à votre écoute pour échanger avec vous et vous proposer des solutions. Alors si vous ressentez le besoin de vous confier, un seul numéro, le 09 69 39 10 11.
Prix d'un appel local.
À ce soir, 23h sur RTL.
Parlons-nous.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si Accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
À tous ceux qui, après le repas, se transformaient en artistes avec la cire des Babybel. Je vous présente un cow-boy qui est tout rouge. C'est conceptuel. Papa, regarde, un diplodocus, mais tout rouge. Et un nez de clown.
Oui, bah c'est très rouge, quoi, surtout.
Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Babybel, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, sur le moins cher des deux, origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Bon après-midi sur RTL.
RTL, vivre ensemble.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans, maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque 1 salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Série documentaire événement sur M6. Pendant 1 an, nous avons filmé la vie d'un collège français. Une plongée inédite dans le quotidien de professeurs passionnés.
Je fais ce métier comme si chaque élève était un de mes enfants.
Au plus près de ce qui se passe vraiment dans les salles de classe.
Je pense qu'il n'y a pas une journée où on n'entend pas parler des réseaux sociaux dans l'établissement.
Inédit, au cœur du collège 1 an à Jean Villard, ce soir à 21h10 sur M6.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
C'est un récit puissant, un témoignage utile pour l'histoire de France. La promesse d'Anne Lauvergeon a été publiée cette semaine aux éditions Grasset. La promesse, c'est la promesse d'Anne Lauvergeon à un homme qui a fait l'histoire de France, François Mitterrand, l'unique président de gauche jusqu'à François Hollande en 2012. Et ce livre était dans mes mains. Je le gardais avec moi comme un petit trésor parce qu'à chaque page, on découvre des secrets, des anecdotes sur l'histoire de notre pays et l'histoire de cet homme qui aura été le premier président a réalisé 2 mandats avant Emmanuel Macron. Bonjour Anne Lauvergeon.
Bonjour, et 2 mandats de 7 ans.
2 mandats de 7 ans, 14 ans, 14 ans pour François Mitterrand. Vous êtes l'ancienne secrétaire générale adjointe de l'Élysée entre 1990 et 1995. Ce livre, il est incroyable parce qu'il est truffé de notre histoire. Je le disais, j'insiste là-dessus, et vous racontez cette promesse. C'est quoi cette promesse à François Mitterrand ?
C'est un soir de juin 1994, on est en train de... Je l'accompagne dans une de ses activités qu'il aime bien, c'est-à-dire faire 2 fois, 3 fois le tour du parc de l'Élysée. Et effectivement, il me demande d'écrire un jour ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, ce que j'ai compris de lui, de son action. Et moi, j'ai pas très envie, parce que beaucoup de gens commencent déjà à faire Mitterrand et moi, et puis certains moi et Mitterrand, et donc je dis non. Et puis, je finis par dire oui, je dois dire, mais je lui dis pas avant 25 ans.
Oui,
donc la gestation a été longue.
Il vous dit, le président Mitterrand, Anne Lauvergeon, fais ce livre, dans 10 ans, fais-le dans 20 ans, fais-le quand tu voudras, mais fais-le, promets-moi de l'écrire.
Et ben voilà, donc on a eu une espèce de petite négociation sur le temps, et je crois que j'en avais besoin parce
qu'il fallait que ça émerge.
Il fallait que ça émerge. J'avais pris beaucoup de notes. Quand j'ai retrouvé mes notes, c'était très intéressant parce qu'il y avait plein de notes qui étaient absolument inutiles pour ce livre. C'était des notes sur moi, sur ma vie, sur ce que je pensais d'un certain nombre de choses. Ce que j'ai trouvé d'utile dans ces notes m'a fait aussi revivre tout un passé et je me suis replongé dedans, oui.
Je voudrais que vous racontiez, Anne Lauvergeon, une chose sur le tutoiement. Vous restez interdite, François Mitterrand arrive dans votre bureau et il vous dit « Anne, ça serait bien qu'on passe au tutoiement ». Il ne tutoyait personne.
Il tutoyait personne et il était très connu au Parti Socialiste où tout le monde se tutoyait pour à chaque fois qu'un camarade venait et disait « avant qu'il soit président, ah, cette fois-ci on va se tutoyer hein ». Et il répondait de manière impavide « comme vous voulez ». Et quand il m'a proposé à la fin d'un déjeuner « mais on pourrait se tutoyer », je suis restée stupéfaite, parce que pour moi c'était vraiment l'impensable. J'avais envie de lui répondre ce qu'il disait aux gens au Parti Socialiste, comme vous voulez. Je me suis dit, si je dis ça, c'est blocage total, alors que c'est une occasion absolument historique. Donc j'ai dit oui, bien sûr. Et on se vouvoie en privé quand on parle travail, et on se tutoie quand on ne parle pas travail.
Parce que dans ce livre, dans La Promesse, vous racontez le François Mitterrand secret. Et notamment un homme qui est un grand séducteur, ça on le sait. Un homme qui a une autre voix, qui est prévenant et curieux quand il parle avec les femmes.
Ah oui, je pense que c'est un... Dans sa génération, c'est assez rare. Il est, je crois, assez féministe. Il va féminiser l'Élysée à un niveau jamais atteint avant et jamais atteint depuis.
Oui. Et d'ailleurs, vous revenez sur une histoire d'amour absolument incroyable. Le premier amour de François Mitterrand, c'est Marie-Louise Terrasse, que les Français connaîtront bien des années plus tard avec le nom de Catherine Langer, qui recevra la Légion d'honneur. Ça, c'est un amour qui l'a marqué, et cet amour a été bouleversé par la guerre, mais cet amour, ça l'a marqué tout le temps. Il lui envoyait souvent des fleurs.
Alors, il se rend compte, je crois, en 1938, donc c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Elle est toute jeune, il est étudiant, c'est le coup de foudre absolu. Il en parlait, il m'en a parlé comme, effectivement, une sorte de tremblement de terre. Et cet amour est un amour complet, total de sa part. Elle est jeune, elle a envie un peu de voir ailleurs. Et c'est très drôle, la famille de Marie-Louise, là, les terrasses, sont totalement séduits par François Mitterrand. Ils se fiance, part sur le front, et à partir de là, il est blessé, fait prisonnier, et elle va s'éprendre d'un autre. De manière assez étonnante, en fait, ils vont avoir une grande aventure a posteriori.
Vous avez assisté à ce François Mitterrand secret. Ce qui est fou, Anne Lauvergeon, c'est qu'il va réussir à compartimenter avec les deux femmes de sa vie, Danielle Mitterrand, qui est son épouse, celle qui lui a porté la stabilité, et Anne Pinjot, la mère de Mazarine. Ça, c'était important pour lui d'avoir ces deux femmes de sa vie auprès de lui, même si il continue de papillonner. C'est ce que vous révélez, page 142, je crois.
Je ne pense pas que ça soit une révélation, parce que je pense que c'est commun d'ailleurs à beaucoup d'hommes politiques. Ben, un besoin de séduire, un besoin d'être réassuré. Et puis je pense qu'il souhaitait pas être enfermé. D'ailleurs, il avait dit un jour à Daniel, je ne me suis pas marié sous le régime de l'Inquisition.
Et vous racontez dans le livre le grand secret de François Mitterrand, Mazarine Pinjot, sa fille. Vous apprenez l'existence de Mazarine Pinjot en quelle année ?
Alors moi j'en entends parler assez vite quand j'arrive à l'Élysée par un conseiller qui me dit...
Donc novembre 90.
Ouais, j'y crois pas du tout. Je me dis, mais c'est pas possible, il aurait une fille, tout le monde le saurait, il va me l'apprendre officiellement.
L'anecdote est formidable. Il vous demande d'appeler l'école normale supérieure.
Il me demande d'appeler l'école normale supérieure pour savoir si mademoiselle Mazarine Pinjot, alors à l'époque le nom est inconnu, est bien rentrée à l'école normale supérieure. J'appelle, je viens lui dire, oui, elle est bien reçue en philosophie. Et alors il est là, il fait « Ah, vous n'allez plus être la seule normalienne de mon proche entourage. »
Vous comprenez ?
Et il repart, et il revient, et il me dit « C'est ma fille !» Oh. Mais avec un... En fait, il était tellement fou de bonheur, parce que pour lui, l'école normale supérieure, c'était vraiment le Graal. Donc que sa fille y rentre en philosophie, ce qui était... il fallait qu'il le partage.
Il était capable aussi d'énormes colères, François Mitterrand.
Froide. Très froide.
Très froide, notamment en 94, la réception de Bill Clinton.
C'est le même soir que la promesse, d'ailleurs. Tout se passe beaucoup de choses dans cette journée. François Mitterrand propose à Bill Clinton et à Hillary d'aller visiter le Louvre après le dîner d'État. On arrive et Jacques Toubon commence à faire les honneurs du Louvre en expliquant les travaux, l'histoire, etc. Et en laissant François Mitterrand... Alors là... je sens la tension monter. À un moment donné, François Mitterrand me fait signe et me dit « Il continue comme ça, je m'en vais. » Je dis « Jacques, viens voir, il faut que je te parle. » Et la visite a pu continuer normalement.
Vous revenez aussi sur la maladie. Vous l'avez accompagné dans tous les moments difficiles. Sa seule crainte, c'était de ne plus être en capacité de présider la France.
Oui, en fait, sa crainte, c'était quand vous battez contre un cancer, vous battez contre un ennemi dont on ne connaît pas vraiment le visage. C'est un cancer familial, son père en est mort, un certain nombre de ses frères l'ont eu. Donc, il y a une sorte de face-à-face avec le destin. Et pour lui, la crainte, c'est effectivement des évolutions de la maladie qui pourraient faire des métastases éventuellement, d'ailleurs, affectant ses...
Il vous dit même « je suis radioactif, Anne ». Oui. Que ça touche la moelle épinière.
Oui. Il expliquait qu'il était radioactif. Ça faisait partie de ses...
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, Anne Lauvergeon, c'est le dernier rendez-vous manqué avec François Mitterrand. Ce rendez-vous, il vous hante encore. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ? Parce que vous ne reverrez jamais François Mitterrand vivant alors qu'il vous a appelé quelques heures avant sa mort.
Il m'a appelé un soir pour me demander si je pouvais passer. Je lui ai dit « je viens demain ». Le soir, j'étais vraiment un peu coincé. J'ai dit « je viens demain matin ». Et le lendemain matin, le docteur Tarot m'a empêché de rentrer. Et je me suis laissé faire. Et c'est toute la problématique, vous savez, de savoir dire bonsoir à des gens comme ça. Mais dire bonsoir à quelqu'un d'exceptionnel. Parce que là, on a pas trop parlé de tout son, de toute son œuvre, mais c'est beaucoup de choses. Donc c'est en même temps un travail épuisant. Moi, je parle pas beaucoup ça dans le livre parce que c'est pas moi le sujet. Mais quand j'ai quitté l'Élysée, j'ai dormi 12 heures par nuit pendant 6 mois. J'étais épuisée. Faut voir la maison Élysée, ouais. Le travail, l'engagement. Et puis, il y avait aussi l'accompagnement de quelqu'un qui était devenu mon ami aussi, au-delà de du président de la République et de mon patron. C'était aussi devenu un ami. Et un ami qui sait quelque part de plus en plus clairement que la fin est inéluctable.
Vous terminez ce livre par « Il me manque ». Il vous manque encore aujourd'hui, Anne Lauvergeon ?
Ah oui, bah, de toute façon, les amis importants, c'est des amis pour la vie que vous portez avec vous, d'une certaine façon. Oui, il me manque aussi pour parler avec lui de l'actualité, regarder le monde dans lequel on vit. Donc oui, moi j'aimerais beaucoup discuter de tout ça avec lui.
Et mon tout est un président. Cette belle charade que vous avez et que vous écrivez, Anne Lauvergeon, ce livre, il est publié chez Grasset, La Promesse. C'est cette promesse que vous avez fait un soir de juillet 94. Fais ce livre dans 10 ans, fais-le dans 20 ans, fais-le quand tu voudras, mais fais-le, Anne, promets-moi de l'écrire. C'est l'histoire d'une vie, de pouvoir vivre comme ça avec un président de la République, le seul président à avoir fait 14 ans à la tête de l'État français. C'était votre histoire, votre regard sur François Mitterrand, et vous le dites, c'est un regard subjectif. Dans quelques instants, Anne Lauvergeon, on sera avec Karim Bouamaran, le maire de Saint-Ouen. C'est dans un instant sur RTL. Encore merci à vous, Anne Lauvergeon. C'était un plaisir
merci.
De vous recevoir sur RTL.
Merci
à bientôt.
Beaucoup.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Bonjour, c'est Isabelle Langer.
On refait le sport sur RTL.
Ce soir, je reçois un invité très spécial. Il n'est ni champion, ni sportif de haut niveau, et pourtant, lui aussi pourrait être médaillé d'or. Jim Ingram est chef de groupe à la BRI. Il a libéré les otages au Bataclan. À l'occasion de la sortie de son livre Les Anges Gardiens du 36, il nous racontera en quoi son quotidien ressemble à celui d'un athlète. Rendez-vous ce soir, 19h15.
On refait le sport.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étant le bonus écologique de 7000 euros à tous.
3000 euros de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 euros par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LL des 37 mois apporte 2650 euros, bonus éco 4000 euros, remise éco Fiat 3000 euros et prime à la conversion de 1500 euros déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur Fiat.fr. Pensez à covoiturer. Fiat.
Vous savez que le sang permet de soigner des cancers ou des maladies du sang? Moi, le jour où je l'ai appris, j'ai eu le déclic. Je suis devenue donneuse. C'est ma manière à moi de ne jamais me sentir impuissante. Et quand je pense à tous ces patients qui peuvent guérir et vivre à nouveau normalement, je me sens vraiment fière.
Rendez-vous sur le site Don de Sang de l'établissement français du sang.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah le patron, il est à 1,99€.
Le melon ?
Ah oui, je m'en lèche déjà les doigts, patron. Dès demain chez Lidl, le melon charentais est à 1,99€ la pièce.
1,99€ le melon chez Lidl ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et bien meilleur, patron, hein, parce que c'est du melon charentais.
Ils ont vraiment pris le melon.
Oh, melon est mal, patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, origine Maroc. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Cette semaine, la France a célébré le J-100 avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un événement planétaire qui va faire de Paris le centre du monde. Le centre du monde avec des athlètes qui vont réussir et qui vont nous ramener des médailles, des athlètes et des femmes françaises qui vont réussir. C'est le cas notamment de Marie Patrouillet, cette championne du paracyclisme français. Bonjour Marie Patrouillet.
Bonjour.
Et avec nous aujourd'hui dans Focus Dimanche, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamaran. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour Mohamed.
Ravi de vous recevoir aujourd'hui sur RTL dans Focus Dimanche. Marie Patrouillet, ma première question, elle est pour vous. Dans quel état, on est à quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, dans quel état vous êtes, vous qui allez disputer cette épreuve reine du cyclisme dans quelques semaines?
Alors nous c'est particulier parce que la sélection n'a pas encore été annoncée, mais en tout cas la préparation suit son cours et on a quand même hâte d'y être.
J'imagine Marie Patrouillet que pour vous ça doit être une tension absolue d'attendre. Vous êtes la championne du monde en cyclisme, en para-cyclisme. Comment ça se passe actuellement la préparation Marie?
Là actuellement je passe mes journées à l'INSEP. Je suis rentrée de Rio fin mars. J'ai pris quelques jours de pause et ensuite après un stage en équipe de France sur route à hier, là je suis retournée dans ma deuxième maison qu'est l'INSEP et je m'entraîne musculation le matin, vélo l'après-midi ou alors vélo matin après-midi. Et ça c'est ma routine de la semaine.
Cet événement exceptionnel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s'accompagne d'une sacrée fierté pour tous les Français. Et quand je parle de fierté, Karim Bouamrane, ça résonne chez vous aussi. Vous avez eu le droit à un joli cadeau cette semaine, la une du légendaire New York Times qui vous a célébré en une avec ce portrait en citant le Obama à la française. Avoir son visage en une du légendaire journal américain, j'imagine que c'était pour vous une sacrée satisfaction en tant que maire et en tant qu'élu local, mais aussi en tant qu'homme issu du 93 de la Seine-Saint-Denis.
C'est surtout une reconnaissance de toutes celles et ceux qui luttent pour l'égalité. Et le fait que ça fasse la une du New York Times, c'est assez paradoxal parce qu'au moment où il y a un journal anglo-saxon qui exprime une reconnaissance certaine d'un parcours républicain, on est des millions et des millions, au même moment Le Monde fait un article sur une frange de la population, je pense notamment à toutes celles et ceux qui ont nom à consonance arabo-musulman, la discrimination qui s'ébuse sur le thème la France, tu l'aimes et tu la quittes, à cet exode-là. Donc je voudrais aussi saluer le travail de Marie sur les questions d'égalité, tout le travail qui est fait par de nombreux journalistes comme vous, Mohamed, sur les questions d'égalité. Et les Jeux Olympiques, ça doit être un point d'orgue aussi pour cette fête autour des valeurs républicaines qui caractérisent notre pays.
Karim Bouamrane, vous allez aussi vivre un moment de tension, on va dire qu'il y a de la fierté, il y a de la satisfaction, il y a de la joie, mais il y a aussi la crainte pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une grande partie du village olympique est sur votre ville, à Saint-Ouen. La même question que Marie Patrouillet, on ressent quoi à quelques semaines du début de la compétition ?
Tension, excitation et sérénité. Je dis toujours, on est la France. Et la France, on est une des plus grandes nations, un des plus grands pays en termes de capacité organisationnelle d'événements comme les Jeux Olympiques, comme la Coupe du Monde. On a une capacité exceptionnelle à savoir mobiliser, à fédérer toutes les bonnes énergies pour que cette fête soit exceptionnelle. Donc là, pour répondre très concrètement, on le voit, on est dedans. On le voit aussi très concrètement en termes d'infrastructure. Pour nous, c'est l'île des Vannes, une île de 7 hectares qui va être rénovée, qui va accueillir l'Académie Tony Parker. Ça sera 1000 logements tout neufs avec 25% de logements sociaux. Ça sera un parc de 3 hectares. Et c'est surtout une capacité à pouvoir donner la possibilité à des élus comme moi d'accélérer cette politique de service public. C'est ce que je disais dans le New York Times. Pour nous, les Jeux Olympiques, c'est un outil qui nous donne la possibilité d'être un accélérateur de particules sur le plan sportif, sur le plan culturel, sur le plan des services publics. Et franchement, on va avoir, ça arrive tous les 100 ans, on va avoir en modovision tous les regards des 5 continents rivés sur nous. Ça va être exceptionnel.
D'ailleurs, vous l'avez inauguré ce village olympique, Karim Bouamrane, en compagnie d'Emmanuel Macron. Comment vous l'avez trouvé, ce village olympique ?
Il est beau, il est écologique, il est moderne, et surtout, ce qui est intéressant, contrairement aux erreurs qui ont pu être commises dans certains Jeux olympiques, il y a cette notion de pérennité, d'héritage. Donc c'est là où on a un savoir-faire à la française hors norme. On va à la fois accueillir une fête exceptionnelle, et on se prépare sur la suite pour que ce lieu-là donne la possibilité à des personnes qui vivent dans ces quartiers, qui vivent dans cette ville, qui vivent dans ces territoires, de voir concrètement leur vie s'améliorer. Et on le voit déjà, vous avez eu l'occasion de le visiter, donner un boom sur le plan économique, d'un boom culturel, d'un boom sportif, d'un boom en termes d'infrastructure. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'un budget d'investissement pour une ville comme la mienne, ce que l'héritage en termes d'infrastructure.
Marie Patrouillet, on dit souvent que la France n'est pas un pays de sport. C'est quoi l'héritage que ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 vont laisser ? Est-ce qu'on espère, quand on est sportive de haut niveau, que la France va retrouver sa place dans le sport mondial ?
Ah bah j'espère que ça va être un des plus grands héritages de ces Jeux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là je parle du sport paralympique, la France est encore moins un pays du sport, du parasport, et j'espère que après les Jeux, parce que les assos, les clubs, les écoles et puis les jeunes et les parents aussi auront vu des athlètes performer, des athlètes paralympiques performer, j'espère que derrière des structures vont se développer et vont surtout s'encadrer de personnes compétentes pour pouvoir encadrer des enfants et puis des adolescents et des adultes en situation de handicap. Quoi.
Marie Patrouillet, pour l'instant, les places pour les Paralympiques ont du mal à se vendre. Ça vous agace ? Ça vous attriste ?
En toute honnêteté, j'y pense pas encore. Je suis pas encore là-dedans. C'est vrai qu'en tant que athlète préparant les Jeux, on est plutôt focus sur le jour J où il faudra qu'on délivre notre meilleure performance. Est-ce que ça m'attriste ? Oui. Après, Il reste du temps pour se mobiliser, pour que les médias aussi nous aident à donner envie aux gens. Voilà, il y a encore, je pense qu'on a, on a encore de quoi faire changer ce chiffre.
Karim Bouamran, on se souvient tous malheureusement des images de cette finale de la Champions League qui a eu lieu à Saint-Denis au Stade de France entre le Real Madrid et Liverpool. Ces images de supporters britanniques malmenés. Je sais que Mathieu Hanotin, le maire de Saint-Denis, se bat pour faire en sorte que cet événement des Jeux Paralympiques et Olympiques de Paris 2024 se passe bien. Mais est-ce qu'on espère discuter, échanger avec ces jeunes pour donner une bonne image du 93, éviter qu'il y ait des débordements, des incidents beaucoup plus graves comme ceux qu'on a connus lors de la finale de la Champions League?
Le sujet en termes de sécurisation et de capacité d'organisation d'un événement comme les Jeux Olympiques est sensiblement différent de ce qui s'est passé lors de cette funeste finale de la Ligue des Champions. Franchement, même s'il y a toujours une inquiétude, mais il y a une inquiétude au niveau organisationnel sur l'aspect sécurité, que ce soit une kermesse ou que ce soit n'importe quel type d'événement, en tant que premier magistrat de la ville, on est toujours obnubilé par les questions de sécurité. Mais concernant les Jeux Olympiques, je suis totalement serein sur notre capacité à gérer et les flux et la sécurité. Il y aura, je le dis et redis, tout va bien se passer, mais vraiment à la perfection. La parenthèse de Ligue des Champions, on peut tout le temps y revenir, mais on a vu le problème de la gestion des places, de la gestion des supporters, de la gestion des flux, de la gestion des transports, de la gestion des différentes zones dédiées et définies pour tel ou tel supporter, ce qui a créé un dysfonctionnement monstre. Bon, je reste convaincu que ça va bien se dérouler. Ce qu'il faut, c'est vraiment parler des sportifs, parler de l'héritage, parler de notre capacité à bien faire. Notre capacité en France, elle est exceptionnelle. C'est tout le temps la même chose. Et souvenez-vous même pendant la Coupe du Monde 98, les 100 jours qui précèdent un événement, il y a toujours cette espèce, et c'est typiquement français chez nous, d'autoflagellation, d'être hyper négatif. Et plus ça arrive, plus on commence à dire, bah pourquoi pas. Et quand on est dedans, alors là, c'est l'euphorie, c'est la fête, c'est les énergies positives. Et quand ça se termine, il y a une espèce de nostalgie en se disant « Waouh, c'était bien les JO, c'était bien la Coupe du Monde ». Donc, c'est ce qui caractérise la France. Donc, ça va super bien se passer. On va avoir énormément de médailles. Et la question que vous posiez sur l'inclusion et l'intégration de l'événement global des Jeux Paralympiques, les politiques ont un rôle déterminant. Il faut sensibiliser justement toutes les associations sportives, toutes les associations culturelles. Eux ont un rôle extrêmement important à jouer sur la sensibilisation du public, à savoir les Jeux Paralympiques ont la même portée symbolique, la même portée sportive, la même portée nationale que les Jeux pour les valides.
Marie, la dernière question, elle est pour vous. Vous allez nous chercher quelle médaille, vous qui êtes championne du monde? On imagine qu'il y a une ambition incroyable sur ces JO.
Ah bah les plus belles, hein. Au jeu, je serai sur la piste, je ferai le 500 et la poursuite, et après je ferai la course en ligne sur route. À Tokyo, j'ai fait 2 médailles de bronze. L'objectif, c'est de faire mieux.
Merci à vous, Marie Patrouillet. On vous souhaite plein de bonheur et une très belle compétition. On va vous suivre et on est bien évidemment tous derrière vous pour aller chercher l'or. Et Karim Bouamran, je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, mais on est tous très 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 fiers de vous avoir vu en une de ce magnifique New York Times avec votre photo. Merci à vous deux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche sur RTL.
Merci. Merci Mohamed. Merci Marie. Merci beaucoup. Merci à vous.
Quels sont les derniers secrets du château de Versailles? Vous les connaîtrez dans quelques secondes. On sera avec le directeur du protocole. Il écrit un livre puissant sur le Versailles intime. Je vous emmène dans les coulisses de Versailles. C'est dans un instant sur RTL. Ne bougez pas.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus. Dimanche.
Julien Courbet, ça peut vous arriver.
On n'achète pas les yeux fermés, on regarde les prix au kilo. Et samedi, j'ai acheté des céréales d'une très grande marque, le petit paquet et le grand paquet. Et devinez quoi, au kilo, le petit paquet m'a coûté moins cher que le grand paquet, alors que ça devrait être l'inverse. Le petit paquet, c'est le paquet sur lequel les enseignes s'alignent les unes les autres. Et au bout de ce qu'on appelle la guerre des prix, le petit paquet devient pas cher par rapport au gros paquet.
Le journal des arnaques, c'est tous les matins à 11h. Dans Ça peut vous arriver sur RTL.
À tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, là-bas c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé. On voulait juste être sympa. Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Chez AXA, on n'assure pas les motards comme les automobilistes. Parce qu'on sait que...
Avec l'accident, mon casque est bon pour la casse. Et pour le changer, bah, c'est vraiment pas donné.
Et on sait aussi que...
Top case fracturé pendant la nuit, du coup, adieu mon gilet airbag et bonjour la facture.
Et parce qu'on sait tout ça, AXA Passion garantit vos équipements à leur valeur d'achat pour vous assurer la meilleure des protections. AXA. Soumis à condition, avec le pack équipement du conducteur niveau 3, vos équipements de protection garantis sont indemnisés sans vétusté pendant 5 ans en cas d'accident sur présentation de la facture. Info sur passion.axa.fr.
Chers concitoyens, Akena fabrique tous ses produits en France pour une empreinte carbone réduite. Akena vous garantit qualité, durabilité. Votez pour l'avenir, achetez Akena.
Je peux pas, je suis déjà reine.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
C'est un homme qui connaît tous les secrets de l'un des joyaux de la France. Dominique Avard est le responsable du protocole du château de Versailles. Pour la première fois, il se confie dans un livre Versailles intime que j'ai tout simplement dévoré et que j'ai adoré. Bonjour Dominique Avard.
Bonjour Mohamed.
Bonjour aux auditeurs. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui sur RTL dans Focus Dimanche. Cette première question, elle est assez simple. Pourquoi vous avez décidé de parler au bout de 34 ans de protocole, de 34 ans dans la vie des coursives du château de Versailles?
Oui, je comprends. On me dit souvent, mais pourquoi vous n'avez pas écrit cet ouvrage avant? Parce que tout d'abord, je n'avais pas le temps. Et puis, il y a eu cette possibilité grâce à une rencontre avec chez Grasset. Ouais. Et Grasset m'ont dit, bah, écoutez, ça pourrait être sympa que vous puissiez effectivement écrire un ouvrage un peu sur les coulisses de Versailles, un peu sur le J'aime pas trop le Versailles secret, mais le Versailles intime.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez fait pendant 34 ans, ce protocole, à quoi ça consiste et qui avez-vous reçu? Et je me suis dit, pourquoi pas? Ça peut être un exercice intéressant.
Et c'est quoi ce Versailles intime? Ce Versailles que vous racontez dans ce livre Versailles intime, publié chez Grasset?
Oui, alors d'abord, il faut aussi remercier Grasset parce que c'est vraiment une très très bonne maison d'édition qui m'ont fait confiance. C'est un Versailles un peu en parallèle des grands appartements du château. Évidemment, lorsqu'on vient visiter Versailles, on connaît essentiellement les grands appartements du roi, la galerie des glaces, les grands appartements de la reine, mais en parallèle de ces grands appartements, il y a les petits appartements privés du roi Louis XV et Louis XVI, mais également les appartements dits intérieurs de Marie-Antoinette, Pompadour, du Barry et combien d'autres.
Quand vous arrivez il y a 34 ans à Versailles, qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos premières émotions?
L'immensité. Louis XIV dit de Versailles, c'est la mesure dans la démesure. Oui. Et ces quelques mots, effectivement, définissent Versailles. Mmh. Et Versailles est comme un aimant, il attire. Et il attire le regard en permanence. Il va attirer le regard au niveau des plafonds de la Galerie des Glaces, peint par Lebrun et son école, mais aussi les plafonds de Philippe de Champaigne. Et le mobilier, qui est un mobilier qu'on retrouve au cours des années, puisque vous savez que la plupart du mobilier a été vendu lors des grandes ventes révolutionnaires. Donc le but de Versailles, du monde de la conservation et de la présidence du château, c'est de faire revenir ce mobilier. Au cours des dernières années, on a eu de très belles acquisitions, oui.
Qu'est-ce qui a été le plus marquant dans votre carrière au sein du château de Versailles depuis 34 ans?
Les rencontres.
Ça fourmille de rencontres dans
votre carrière. Ça fourmille de rencontres, oui.
La plus marquante, d'ailleurs.
C'était très toujours difficile de dire la plus marquante parce que il y a eu des rencontres marquantes. Par exemple, Jane Birkin, qui était une femme...
Vous avez des mots formidables pour Jane Birkin. Vous parlez d'une femme gracieuse au château de Versailles. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jane Birkin? Il faudrait qu'on raconte ces détails. Alors, les auditeurs et les auditrices vont adorer ce livre Versailles intime publié chez Grasset, votre livre, mais on va leur donner envie un peu de...
Écoutez...
Alors, pourquoi elle est si gracieuse, Jane Birkin?
Jane Birkin est si gracieuse parce qu'elle est tout simplement naturelle. Elle est vraie.
Comment se passe la rencontre?
La rencontre se passe de manière très très simple. Je crois que c'est par son attaché de presse, on nous a demandé si on pouvait organiser une visite pour Jane Birkin et sa famille. Et on s'est promené ensemble à travers les coulisses justement de Versailles, le Versailles intime, et on a découvert, on a discuté. On n'a pas parlé que de l'histoire de Versailles, on a parlé aussi de son histoire à Jane.
Des rencontres aussi à l'international? Leonardo DiCaprio s'allonge seul sur le parquet. Moi, j'ai été saisi par cette anecdote. Raconte-moi.
Oui, je vous comprends, parce que quand j'ai fait la visite avec Leonardo DiCaprio, qui est venu à plusieurs reprises, hein, il faut le signaler, Leonardo DiCaprio, d'un seul coup, s'allonge au milieu de la galerie des glaces. Évidemment, il n'y avait pas de public, parce qu'on n'aurait pas pu le faire pour des raisons évidente de sécurité, et il s'est allongé, ça a duré quelques secondes.
C'est incroyable.
Et il regarde vers le plafond de Lebrun. C'est un instant
présent. Il avait besoin de ressentir la puissance de Versailles.
Presque de faire corps avec Versailles.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a envie de ressentir les odeurs, la puissance, presque la fièvre
c'est
de Versailles.
C'est presque charnel.
Ouais.
C'est la fièvre de Versailles, c'est, vous voyez, il fait corps avec le lieu, il regarde les plafonds, je le regarde, ça dure quelques secondes, et il se relève. Et il est content parce que, il a vu, presque comme personne, l'immensité de Versailles, ses plafonds, sa qualité. Oui, c'était des moments incroyable. Ouais.
Dominique Avard, qui vous a dit « Venez me voir à Washington, on vous fera visiter la Maison Blanche ».
Ah oui, ça fut encore un épisode assez incroyable. Je crois que c'est à l'époque, l'ambassade des États-Unis m'avait demandé de faire une visite pour un ancien président américain. Bon, ils ont souhaité que je ne cite pas le nom.
Indice, Dominique Avard.
Un indice. Oh, écoutez, un indice, ils ont été présidents de père en fils.
D'accord, là.
Vous l'avez. Et puis...
Je l'ai dans la bouche, j'ai presque envie de dire.
Voilà. Je vois le jeu de mots. Et puis donc, effectivement, nous avons fait la visite, ça s'est excellemment passé. Et là, il me dit, ça serait intéressant que vous puissiez venir me voir à Washington. Alors, c'était lié à une anecdote, parce qu'on avait, nous avait dit qu'on ne nous avait pas aidé pendant la guerre en Irak. J'ai dit, écoutez, là, moi, je ne peux pas me permettre de rentrer dans ce débat. Je ne le maîtrise pas et j'en ai pas les compétences ni les qualités, mais... Sachez, Monsieur le Président, que nous vous avons aidé lors de l'indépendance des États-Unis d'Amérique en envoyant Monsieur le Rochambeau. Et ça nous a coûté d'ailleurs très très cher. C'est un des éléments aussi qui provoquera probablement la Révolution française, parce que la France est un peu à genoux, même économiquement. Et il en a conscience. Et il m'invite donc à Washington. Et je suis allé voir la Maison Blanche. Alors, ce qui m'intéressait dans la Maison Blanche, au-delà...
Il vous a reçu à la Maison Blanche, cet ex-président américain.
Oui. Au-delà du pouvoir et du pouvoir politique que représente la Maison Blanche, c'est aussi du mobilier français qui se trouve à la Maison Blanche, mobilier en particulier signé par Bélanger. Et j'ai voulu voir aussi ce mobilier.
On ne peut pas oublier un homme, Karl Lagerfeld. Vous êtes très élégant aujourd'hui, Dominique Avard.
Merci.
Karl Lagerfeld qui est venu vous voir à Versailles, et c'est à sa connaissance de tous les tissus de Versailles que vous a impressionné.
C'était un homme passionné et passionnant. Karl Lagerfeld, c'était effectivement les tissus qui les passionnaient et pour qui le passionnaient pour cause, mais aussi c'était un homme passionné par la photo.
Oui.
Et puis, il était passionné par le 18e. Et donc, cette rencontre nous a permis l'un et l'autre de communiquer sur une passion commune qui est le 18e, qui est aussi sur l'histoire, et ensemble, on s'est rendu dans les appartements de Pompadour.
Est-ce qu'il y a eu des moments de tension en 34 ans? Des moments...
Il n'y a pas réellement de moments de tension, il y a des moments un peu d'appréhension quand vous avez une personne qu'on sait qui n'est pas forcément facile. Je pense en particulier, par exemple, quand on a eu Mouhamad Kadhafi.
Ouais.
Il a fallu faire très attention. Ça, c'est d'ailleurs
J'imagine qu'il y a des conditions de sécurité quand on reçoit Mouhamad Kadhafi, il y a des conditions de sécurité incroyables.
Oui, mais en règle générale, il y a même des prévisites. Et quelquefois, vous savez, moi, je prévois toujours, on a ce plan A qui est défini avec les personnalités et j'organise quelquefois un plan B. Au cas où on a un problème, il faut toujours avoir ce plan B. Il faut aussi que j'ai le schéma dans mon esprit, l'architecture du château, pour savoir si on a une porte qui est fermée ou si on doit évacuer.
Il y a eu des moments de tension de sécurité avec des invités.
Avec Kadhafi, oui, parce qu'ils étaient extrêmement stressés. Vous savez, ils étaient accompagnés par une sécurité qui était des femmes, c'est les Amazones. Donc là, il a fallu faire très très attention. Et je veux que ça se passe bien. Au sein de la présence du château, on souhaite que ça se passe bien pour que ce Versailles, au moment où il rentre de Versailles, il puisse, entre guillemets, déconnecter de la réalité, qu'il soit dans l'histoire de France.
Dans ce livre, on a l'impression d'être presque dans votre poche, Dominique Avard.
Oui.
Dans ce livre Versailles Intime, publié chez Grasset, vous avez le trousseau, vous avez la clé, vous nous ouvrez des portes pour découvrir ce château de Versailles magnifique qui fait la fierté de la France. Et quand je parle de fierté de la France, il y a quelques semaines, Emmanuel Macron, le président de la République, a reçu Charles III, le roi Charles III,
bien sûr,
au château de Versailles.
Oui.
Vous avez vu, j'imagine, Dominique Avard en...
Oui, j'étais présent.
Responsable du protocole, cet événement exceptionnel, mais vous avez vu aussi les critiques qui ont pesé sur ce dîner extrêmement fastueux organisé à Versailles. Est-ce que ça vous a agacé, ces critiques ?
On peut comprendre les critiques, mais elles ne sont pas, pour moi, justifiées, parce que Versailles représente, effectivement, comme vous l'expliquez, un joyau de la France, et que ce soit le roi Charles, la reine Camilla ou les invités, tout le monde ont été admiratifs oui. de ce patrimoine. Et on peut être fier de l'avoir. Parce que à travers ce patrimoine, ce sont aussi tous les artisans d'art oui. qui ont travaillé et qui continuent à travailler à Versailles. C'est tout le personnel. Les agents de surveillance dont on parle rarement, mais qui sont présents. Sans eux, le château de Versailles ne pourrait pas ouvrir. Mmh. Et ça, c'est important de le souligner.
Et c'est pour ça que cela doit continuer. On pense à tous ces artisans de notre fierté française.
Oui.
Ceux qui accompagnent le château de Versailles, ceux qui accompagnent la rénovation, par exemple, de Notre-Dame de Paris pour décembre,
oui.
pour décembre 2024. Et ça fait la fierté de la France et ça nous rend fiers. Voilà, on est
ça nous rend fiers. On est rend fiers les Français. Et lorsqu'on reçoit, et lorsque, effectivement, je reçois au nom du président Christophe Leribaud ou que je reçois au château des invités prestigieux, eh bien, quelque part, nous, évidemment, c'est normal, on s'efface.
Oui.
Oh, d'ailleurs, on s'efface normalement parce que les gens viennent et sont en admiration devant ce palais. Et j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à venir visiter Versailles. Il faut venir. Il y avait une publicité, vous savez, dans le métro, qui était, je crois, pour l'Égypte. Votre mémoire l'exige.
Oui.
Voilà, ça résume tout.
On peut savoir, on peut connaître notre futur en regardant le passé. Quand on regarde le passé, on voit Versailles. Voilà, ce sont nos racines françaises. Merci à vous.
Je vous en prie.
Dominique Havard, c'était passionnant de vous écouter. J'imagine que les auditrices et les auditeurs ont adoré ce moment, comme moi, dans Focus Dimanche. Dominique Havard, Versailles Intime, c'est publié chez Grasset. Le château de Versailles, comme vous ne l'avez jamais visité. Merci à vous.
Je vous en prie. Merci. Je voulais juste remercier tout le personnel du château de Versailles parce que c'est important de les saluer. Et puis, une toute petite chose, saluer les gens de mon village au fin fond de la Haute-Marne, qui est Villers-en-Lieu. Voilà.
Et comme quoi la méritocratie française aussi, on peut partir d'un petit village de France pour devenir le
très important pour la jeunesse.
Du château de Versailles, vous
exactement.
Avez entièrement raison. Merci Dominique.